Chapitre 9. Chrétien pénètre dans la vallée de l'humiliation, où il est vivement attaqué par Apollyon, dont il finit pourtant par triompher au moyen de l'épée de l'esprit et de la foi à la parole de Dieu. Alors Chrétien annonça à ses hôtesses son intention de poursuivre son voyage, et celles-ci n'y mirent plus d'opposition. Mais il faut d'abord, dirent-elles, que nous retournions à l'arsenal. Là, elles l'armèrent de pied en cap d'armes éprouvées pour le mettre en état de résister aux attaques auxquelles il pouvait être exposé en route. Ainsi armé, il fut conduit par ses compagnes jusqu'à la porte du palais magnifique, où il s'arrêta un instant pour demander au portier s'il avait vu passer quelques pèlerins. Le portier lui répondit qu'il en avait vu un. « Chrétien, le connaissez-vous ? » Le portier, « Je lui ai demandé son nom, et il m'a dit qu'il s'appelait Fidèle. » Chrétien, « Oh, je le connais. C'est un de mes compatriotes, un voisin. Il vient de l'endroit où je suis né. Croyez-vous qu'il soit déjà bien loin ? » Le portier, « À l'heure qu'il est, il doit être parvenu au pied de la colline. » Chrétien, « Adieu, bon portier. Le Seigneur soit avec vous et vous comble de ses bénédictions pour tout le bien que vous m'avez fait. » Chrétien se remit en route. Mais discrétion, piété, charité et prudence voulurent absolument l'accompagner jusqu'au bas de la colline et lui répétèrent encore toutes les exhortations qu'elle lui avait déjà adressées. « Autant que j'en puis juger, dit Chrétien, cette colline est aussi dangereuse à descendre qu'elle est difficile à monter. » « Oui, dit Prudence, ce n'est pas chose facile de descendre dans la vallée de l'humiliation sans faire aucune chute. C'est pourquoi nous avons voulu vous accompagner. » Il continua donc à descendre, mais avec beaucoup de précautions, ce qui ne l'empêcha pas de glisser plus d'une fois. Quand il fut parvenu au pied de la colline, ses charitables compagnes lui donnèrent un pain, une bouteille de vin et quelques raisins secs et le laissèrent poursuivre sa route seul. Mais à peine avait-il fait quelques pas dans la vallée de l'humiliation, qu'il se trouva dans une grande détresse, en apercevant un ennemi furieux qui venait à sa rencontre. Son nom était Apollyon. À cette vue, Chrétien commença à s'alarmer et à hésiter s'il irait en avant ou s'il retournerait en arrière. Mais se souvenant qu'il n'avait point d'armure sur le dos et que par conséquent, s'il rebroussait chemin, il s'exposerait infailliblement à être percé par les dards de son ennemi, il résolut de l'attendre de pied ferme. Car, se dit-il à lui-même, quand je n'aurai d'autre but que de sauver ma vie, encore serait-ce le meilleur parti à prendre. Il continua donc de marcher en avant et se trouva bientôt en face d'Apollyon. C'était un monstre épouvantable, dont le corps était couvert d'écailles brillantes, semblables à celles des poissons. Il avait des ailes de dragon et des pattes d'ours. De son ventre sortait du feu et de la fumée, et sa bouche était semblable à la gueule d'un lion. Il jeta sur Chrétien un regard de mépris et lui demanda d'où il venait et où il allait. Chrétien, je viens de la ville de Perdition, qui est plongée dans le mal, et je vais à la cité de Sion. Apollyon, je vois que tu es un de mes sujets, car tout ce pays-là m'appartient. J'en suis le prince et le dieu. Comment as-tu osé te soustraire à l'autorité de ton roi ? Si je n'espérais pas que tu rentreras à mon service, je t'étendrais mort à mes pieds. Chrétien, il est vrai que je suis né dans vos états, mais vous étiez un maître dur, et il était impossible de gagner sa vie à votre service, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi, dès que je suis parvenu à l'âge de raison, j'ai agi comme doit faire toute personne de bon sens, j'ai cherché à améliorer ma condition. Apollyon. Il n'est pas de prince qui consente à perdre ainsi ses sujets. Et pour moi, je n'entends pas te laisser échapper aussi facilement. Puisque tu te plains de ton traitement et de ton salaire, j'y remédierai. Consens à revenir sur tes pas, et je mettrai à ta disposition tous les biens qui se trouvent dans mes états. Chrétien. Mais comment, moi, qui me suis engagé au service du roi des rois, pourrais-je, sans crime, rentrer au vôtre ? Napoléon. Tu as fait en cela, comme dit le proverbe, tu es tombé de mal en pis. Mais rien n'est plus commun que de voir ceux qui se disent serviteurs du roi des rois l'abandonner et revenir en arrière. Suis leur exemple, et tu t'en trouveras bien. Chrétien, je me suis donné à mon nouveau maître et je lui ai fait serment de fidélité. Si je violais un engagement aussi sacré, je mériterais de mourir du supplice des traîtres. Apollyon, tu m'as joué le même tour, et cependant je suis prêt à tout oublier si maintenant tu veux revenir à moi. Chrétien, quand j'ai promis de vous servir, je n'étais pas d'âge à savoir ce que je faisais. Et d'ailleurs, je sais que le chef sous les étendards duquel je me suis enrôlé a le pouvoir de m'absoudre et de me pardonner même ce que j'ai fait pour vous. Apprenez d'ailleurs, tyran cruel, que le service du Seigneur, ses dons, ses serviteurs, son gouvernement, son approbation et son royaume sont mille fois plus précieux à mes yeux que tout ce que vous pouvez m'offrir. Renoncez donc à l'espoir de me séduire. Je l'ai choisi pour maître et je ne suivrai que lui. Apollyon, considère, je te prie, de sang-froid, tout ce qui t'attend dans le voyage que tu as entrepris. Tu sais que la plupart des serviteurs de ton maître finissent mal, parce qu'ils me désobéissent et abandonnent mes voies. Combien n'y en a-t-il pas parmi eux qui ont subi une mort honteuse? Son service, dis-tu, vaut mieux que le mien. Mais lui est-il jamais arrivé de sortir des lieux qu'il habite pour venir au secours de ceux qui lui appartiennent? Tandis qu'on m'a vu mille fois, comme chacun le sait, prendre la défense de ceux qui m'ont servi fidèlement et les délivrer soit par force, soit par ruse, des mains de ton maître ou de celles de ses agents. Je t'accorderai, si tu le veux, la même protection. Chrétien, si mon maître tarde à venir au secours des siens, c'est afin d'éprouver leur amour et de voir s'ils lui demeureront fidèles jusqu'au bout. Quant à ce que vous appelez la fin malheureuse de quelques-uns d'entre eux, elle est à leurs yeux la mort la plus belle et la plus glorieuse. Ils ne désirent et n'attendent pas une délivrance immédiate. Ils fixent leur regard sur la félicité qui leur sera accordée, alors que leur prince viendra dans sa gloire et dans celle des saints anges. Apollyon, tu lui as déjà été infidèle. Quelle raison as-tu donc de croire qu'il te paiera tes services? Chrétien, en quoi lui ai-je été infidèle? Apollyon, tu as perdu courage dès le commencement de ta route, lorsque tu as manqué périr dans le bourbier du découragement. Tu as eu recours à de mauvais moyens pour te délivrer de ton fardeau, tandis qu'il fallait attendre patiemment que ton prince vînt t'en débarrasser. Tu t'es lâchement endormi, et pendant ton sommeil, tu as perdu ton bien le plus précieux. Tu as été sur le point de rebrousser chemin à la vue des lions, et quand tu parles de ton voyage et de ce que tu as vu et entendu, il y a au-dedans de toi un secret désir de vaine gloire qui se mêle à toutes tes actions et à toutes tes paroles. Chrétien, tout cela est vrai, et vous êtes loin d'avoir dit tout ce qu'il y aurait à dire sur mon compte. Mais le prince que je sers et que j'aime est miséricordieux, prêt à pardonner. D'ailleurs, toutes ces infirmités dont vous parlez, je les avais déjà quand j'étais dans votre pays, car c'est là qu'elles ont pris naissance. Mais j'ai pleuré sur mes péchés, je m'en suis repenti, et j'ai obtenu le pardon de mon prince. » À ces mots, Apollyon, transporté de fureur, s'écria, « Je suis l'ennemi de ton prince, je le hais, lui, son peuple et ses lois, et je suis sorti contre toi exprès pour te combattre. » Chrétien, prenez garde à vous, Apollyon, je suis dans la voie royale, dans le chemin de la sainteté. Prenez garde à vous. Je ne crains rien, dit Apollyon, en se plaçant à travers du chemin, de manière à barrer le passage. Prépare-toi à mourir, car je jure par mon antre infernal que tu n'iras pas plus loin. C'est ici que tu rendras le dernier soupir. En prononçant ces paroles, il lança un dard enflammé contre la poitrine de Chrétien. Mais celui-ci portait un bouclier avec lequel il para le coup. Cependant, il vit que le moment était venu de tirer l'épée et de se défendre. Apollyon, sans lui laisser un instant de relâche, fit pleuvoir sur lui une grêle de traits, et malgré tous les efforts de Chrétien pour les éviter, il fut blessé à la tête, à la main et aux pieds. Apollyon, le voyant reculer, redoubla d'ardeur. Mais Chrétien reprit courage et se défendit vaillamment. Ce terrible combat dura environ une demi-journée, et les forces de Chrétien étaient presque épuisées, car ses blessures l'affaiblissaient de plus en plus. Apollyon, épiant un moment favorable, serra de près son adversaire en luttant avec lui, et le jeta par terre. Les armes de Chrétien s'échappèrent de ses mains dans sa chute, et il désespérait déjà de sa vie, lorsque Dieu permit qu'il ressaisît adroitement son épée au moment où son ennemi, se croyant sûr de la victoire, allait frapper le dernier coup. « Ne te réjouis point sur moi, mon ennemi, s'écria-t-il. Si je suis tombé, je me relèverai. » Et en prononçant ces mots, il porta à Apollyon un coup terrible qui le fit reculer comme un homme blessé à mort. Chrétien s'en aperçut et le frappa de nouveau en disant « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors Apollyon déploya ses ailes de dragon et s'envola, et Chrétien ne le revit plus. Il faudrait avoir été témoin du combat pour pouvoir se faire une idée des cris et des vociférations d'Apollyon, et des soupirs et des gémissements de Chrétien, pendant tout le temps que dura cette lutte. La figure de ce dernier ne cessa de porter l'empreinte de la tristesse jusqu'au moment où il s'aperçut qu'il avait blessé son ennemi avec son épée à deux tranchants. Alors, il est vrai, un sourire anima sa physionomie, et il leva les yeux au ciel. Quand le combat fut fini, Chrétien rendit grâce à celui qu'il avait délivré de la gueule des lions et rendu vainqueur des attaques de son ennemi. En ce moment, une main parut, présentant à Chrétien quelques feuilles de l'arbre de vie. Il les appliqua sur les blessures qu'il avait reçues dans le combat, et elles furent guéries à l'heure même. Puis il s'assit, mangea du pain et but du vin qui lui avait été donné au pied de la colline. Ainsi restauré, il poursuivit sa route, l'épée nue à la main. « Car, dit-il, j'ignore s'il n'y a pas près d'ici quelque nouvel adversaire prêt à m'attaquer. » Mais il traversa la vallée sans faire d'autres rencontres fâcheuses. Au bout de cette vallée s'en trouvait une autre, appelée la vallée de l'ombre de la mort. Et il fallait nécessairement que Chrétien y passât, parce que le chemin de la cité céleste la traversait. Or, c'était un lieu fort solitaire. Le prophète Jérémie l'appelle un désert, un pays de landes, un pays aride et d'ombre de mort, un pays par lequel aucun homme, s'il n'est chrétien, ne peut passer, un pays enfin qui n'est habité par personne. Chrétien souffrit encore plus dans cette vallée qu'il n'avait souffert pendant son combat avec Apollyon, comme la suite le montrera. Chapitre 10. Angoisse de Chrétien dans la vallée de l'ombre de la mort. Instruit par l'expérience, il la traverse, l'épée nue à la main, et en priant sans cesse, de sorte qu'il ne lui arrive aucun mal. Je vis alors, dans mon songe, que Chrétien, parvenu à l'entrée de la vallée de l'ombre de la mort, rencontra deux hommes qui revenaient sur leurs pas en grande hâte, et qui étaient enfants de ceux qui avaient décrié la terre promise. Il leur demanda où ils allaient. Les deux hommes. « Nous retournons en arrière, et nous vous engageons à en faire autant, si votre repos ou votre vie vous sont chers. » Chrétien. « Pourquoi cela? Que vous est-il donc arrivé ?» Les deux hommes. « Ce qui nous est arrivé? Nous avons été presque au bout de la route que vous suivez maintenant, et peu s'en est fallu que nous nous soyons trouvés dans l'impossibilité de revenir. Si nous avions fait quelques pas de plus, c'était fait de nous. » Chrétien. « Mais encore, qu'est-ce qui vous a tant alarmé ?» Les deux hommes. « Nous allions entrer dans la vallée de l'ombre de la mort, quand, par bonheur, nous avons regardé devant nous et vu le danger auquel nous allions être exposés. » Chrétien. « Qu'est-ce que vous avez donc vu ?» Les deux hommes. « Nous avons vu la vallée elle-même, qui est horriblement sombre. On n'y aperçoit que des spectres, des lutins et des dragons, habitant de l'abîme. » On y entend des gémissements et des hurlements continuels, comme ceux que pousseraient des malheureux chargés de chaînes et en proie au plus affreux désespoir. La plus terrible confusion y règne, et la mort couvre toujours de ses ailes toute la vallée. En un mot, on ne peut se représenter de lieu plus horrible que celui-là. Chrétien, rien de tout ce que vous m'avez dit ne me prouve que je ne doive pas passer par cette vallée pour arriver au port du salut. Les deux hommes. Passez-y si vous voulez, quant à nous, nous n'en ferons rien. Ils se séparèrent, et Chrétien continua sa route, tenant toujours son épée à la main, de peur d'être attaqué. Je vis alors que tout le long de la vallée, du côté droit, il y avait un fossé très profond. C'est dans ce fossé que, de tout temps, des aveugles guidant d'autres aveugles ont péri misérablement avec ceux qu'ils conduisaient. Du côté gauche de la vallée, il y avait un marais très dangereux sur lequel on ne pouvait poser le pied sans enfoncer et sans courir le risque de n'en jamais ressortir. C'est dans ce bourbier que le roi David tomba une fois, et il y aurait sans doute péri si celui qui est tout-puissant ne l'en avait retiré. Le sentier qu'il fallait suivre étant fort étroit, Chrétien avait beaucoup de peine à cheminer au milieu de l'obscurité. En effet, quand il cherchait à éviter le fossé qui était d'un côté du chemin, il courait le risque de mettre le pied dans le bourbier qui était de l'autre. Et quand il voulait éviter le bourbier, il était toujours sur le point de tomber dans le fossé. Il continua cependant sa route, mais je l'entendis soupirer profondément, car le sentier était si obscur qu'il lui arrivait souvent, après avoir levé le pied, de ne pas savoir où le poser. Environ au milieu de la vallée, j'aperçus, tout près de la route, le gouffre de l'enfer. « Que faut-il que je fasse ?» se demanda Chrétien. Des torrents de feu et de fumée et des cris effroyables sortaient à chaque instant de l'abîme. Et l'épée dont Chrétien s'était servi avec tant de succès contre Apollyon lui était inutile. Il la remit donc dans le fourreau et eut recours, pour se défendre, à cette autre arme appelée la prière continuelle. Je l'entendis crier « Je te prie, Éternel, délivre mon âme !» Il marcha ainsi pendant longtemps, mais à chaque instant, il lui semblait qu'il allait devenir la proie des flammes. Il entendait des cris lamentables et des bruits affreux, de sorte qu'à tout moment il craignait d'être mis en pièces ou foulé aux pieds, comme la balayure des rues. Cet horrible spectacle fut sous ses yeux, et ses sons effrayants frappèrent ses oreilles pendant plusieurs heures. Parvenu dans un endroit où il crut entendre une troupe d'ennemis venir à sa rencontre, il s'arrêta et se mit à réfléchir sur ce qu'il avait de mieux à faire. Il était presque tenté de retourner, mais se rappelant qu'il avait déjà traversé plus de la moitié de la vallée et qu'il avait échappé à de grands dangers, pensant d'ailleurs qu'il courrait peut-être plus de risques en retournant en arrière qu'en allant en avant, il se détermina à poursuivre sa route. Cependant, les ennemis s'approchaient de plus en plus. Mais quand ils furent tout près de lui, il s'écria à haute voix « Je marcherai dans la force du Seigneur Dieu !» Et aussitôt ils reculèrent et disparurent. Une chose singulière, et que je ne crois pas devoir passer sous silence, c'est que le pauvre chrétien avait tellement perdu la tête qu'il ne reconnaissait plus sa propre voix. Voici comment je m'en aperçus. Quand il fut parvenu vis-à-vis du gouffre de l'enfer, un des esprits infernaux le suivit, se glissa doucement derrière lui, et prononça tout bas à son oreille d'horribles blasphèmes que Chrétien s'imagina avoir prononcés lui-même. Cela le rendit plus malheureux que tout ce qu'il avait souffert auparavant. Il lui était insupportable de penser qu'il vomissait des blasphèmes contre celui qu'il avait jusqu'alors tant aimé. S'il avait pu s'en empêcher, il ne l'aurait assurément pas fait, mais il ne pouvait ni se boucher les oreilles, ni concevoir d'où sortaient ces imprécations. Après que Chrétien eut marché pendant quelque temps dans cet état d'angoisse et de misère, il lui sembla tout à coup entendre la voix d'un homme qui le précédait en disant « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Cela le réjouit beaucoup, en premier lieu parce qu'il en conclut qu'il y avait dans cette vallée d'autres personnes qui craignaient Dieu. En second lieu, parce qu'il comprit que Dieu était avec ses enfants au milieu même de leur détresse. Pourquoi donc, pensa-t-il, ne serait-il pas avec moi, bien que les difficultés contre lesquelles j'ai à lutter dans ce lieu m'empêchent de m'apercevoir de sa présence? Enfin, il était ravi de penser que s'il parvenait à atteindre celui qui marchait devant lui, il ne serait pas obligé de continuer sa route seul. Il avança donc et appela, mais celui qui le précédait, se croyant aussi seul, ne répondit rien. Bientôt après, les premiers rayons du jour parurent, et Chrétien prononça ces paroles, « Il a changé de plus noires ténèbres en aube du jour. » Quand le soleil fut levé, il regarda derrière lui, non dans l'intention de repousser chemin, mais pour voir au grand jour les dangers qu'il avait courus pendant la nuit. Il vit alors, bien mieux qu'il ne l'avait fait auparavant, le fossé qui était d'un côté du chemin et le marais qui était de l'autre, et remarqua combien le sentier qui les séparait était étroit. Il aperçut aussi, mais dans le lointain, les spectres, les lutins et les dragons de l'abîme. Depuis qu'il faisait jour, il ne s'approchait plus. Cependant, il les entrevit, selon ce qui est écrit, il met en évidence les choses qui étaient cachées dans les ténèbres, et il produit au jour l'ombre de la mort. Alors Chrétien fut vivement touché, en pensant à tous les dangers auxquels il avait échappé pendant sa route solitaire, et dont la lumière du jour lui faisait mieux voir toute l'étendue. Le soleil commençait à se lever, et c'était pour Chrétien un nouveau motif de reconnaissance. Car, bien que la première partie de la vallée de l'ombre de la mort fût dangereuse, celle qui lui restait à traverser était bien plus dangereuse encore. De l'endroit où il était, jusqu'au bout de la vallée, la route était tellement remplie de pièges, de trappes, de filets, de creux et de trous, que s'il avait fait obscur comme auparavant, quand Chrétien aurait eu 1000 vies, il est probable qu'il les aurait toutes perdues. Mais comme je l'ai dit, le soleil était levé, et le pèlerin s'écria, « Il faisait luire son flambeau sur ma tête, et par sa lumière je marchais dans les ténèbres. » Grâce à la clarté du jour, Chrétien parvint à l'extrémité de la vallée, où j'aperçus un endroit couvert de sang répandu. On y voyait aussi des os, des cendres, et les cadavres mutilés de pèlerins qui avaient autrefois passé par là. Et tandis que je cherchais à m'expliquer quelle pouvait être la raison de tout cela, j'aperçus devant moi une caverne qu'habitaient jadis deux géants appelés Pape et Païen, dont la cruauté et la tyrannie avaient occasionné tout ce carnage. Je fus surpris de voir Chrétien passer par là presque sans danger. Mais j'ai appris depuis lors que Païen est mort il y a longtemps et que l'autre géant est tellement affaibli par l'âge et a tant souffert des assauts qui lui ont été livrés dans sa jeunesse qu'il n'a presque plus la force de se remuer. Tout ce qu'il peut faire, c'est de se tenir à l'entrée de sa caverne, d'épier les pèlerins qui passent, de grincer les dents et de se mordre les doigts de rage de ce qu'il ne peut plus se jeter sur eux. Je vis alors Chrétien continuer sa route. Cependant, il resta un moment interdit quand il se trouva en face du vieillard qui se tenait à l'entrée de la caverne, surtout lorsqu'il entendit celui-ci lui crier, pour se consoler de ce qu'il ne pouvait pas le poursuivre, « Vos autres pèlerins, vous serez incorrigibles, tant qu'on ne jettera pas un plus grand nombre d'entre vous dans les flammes. » Mais Chrétien garda le silence, demeura ferme et passa sans qu'il lui arrivât aucun mal.